Vous écoutez, on lit pour vous.
Le riche passé de la Nouvelle-Écosse. Un texte de Marie Tison, paru le 2 août 2025 dans la presse. Quel est le lien entre les falaises fossilifères de Joggins, la ville coloniale de Lunenburg, et le paysage mélancolique de Grand Pré? Il s'agit des trois sites de la Nouvelle-Écosse inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils sont tous situés à moins de 3 heures de route de Halifax. Il est donc facile de plonger dans le passé et ainsi de mieux comprendre le présent. Il y a 300 millions d'années, à Joggins. Ça prend quand même un peu de temps et d'effort pour remonter le temps. Des autoroutes, puis une tranquille route de campagne, puis un petit village qui a connu de meilleurs jours. Puis le centre des fossiles de Joggins, un témoin de ce qui se passait ici il y a plus de 300 millions d'années, à la période du Carbonifère tardif. On n'y trouvait pas de dinosaures, mais de drôles de mollusques, des poissons, des insectes, de la végétation luxuriante. L'Équateur passait alors par Joggins, qui faisait partie du supercontinent de Pangée, explique le guide-interprète Dana Brown. Avant d'ajouter, avec un brin de regret, « Depuis, le Panama a pris notre place. » Une petite exposition dans le centre des fossiles permet de se familiariser avec le site, ajouté à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008 pour reconnaître la richesse des fossiles qu'on y trouve. Les falaises de Joggins, qui s'étirent sur 15 kilomètres le long de la baie de Fundy, renferment 15 millions d'années d'histoire géologique. Or, la baie de Fundy présente les plus hautes marées du monde. À certains endroits, l'eau peut monter de 15 mètres et atteindre le bas des falaises, accélérant son érosion et bouleversant les cailloux sur la plage. Ainsi, chaque marée peut mettre à jour des fossiles qui étaient dissimulés depuis plus de 300 millions d'années. Charbon et fossiles. Il est possible de parcourir la plage à son rythme, à condition d'avoir un œil sur la montée des eaux. Mais Dana Brown recommande une visite guidée. À première vue, tout semble pareil, tout a l'air gris. On risque de ne pas remarquer ce qui est intéressant. Coiffé de casque, les chutes de pierre sont possibles près des falaises, nous suivons Dana et descendons l'escalier qui nous mène sur la plage alors que le brouillard s'étend sur la baie. Notre guide nous fait remarquer un épais trait noir au bas de l'escalier, une veine de charbon. Il nous explique que le charbon était au centre de l'économie de Joggins au début du siècle dernier. On y trouvait 83 mines, un quai pour le chargement des navires, une voie ferrée. L'industrie du charbon a toutefois décliné après la Seconde Guerre mondiale. La qualité du charbon ici n'était pas si bonne que ça. Il n'était pas facile de le transporter ailleurs et le pétrole a pris le dessus, explique-t-il. La dernière mine a fermé en 1961 et les mineurs sont partis travailler dans les usines d'automobiles de l'Ontario. Le père de Dana Brown a réussi à demeurer ici en achetant un bateau et en devenant pêcheur. Le village de Joggins a périclité, mais il pourrait bien connaître une nouvelle croissance grâce au tourisme. Le charbon est un combustible fossile. Or, si vous avez des combustibles fossiles, vous avez des fossiles, dit Dana Brown, guide interprète. Et les touristes, souvent, aiment bien les fossiles. Belle découverte. Sur la plage, Dana Brown s'arrête ici et là pour montrer différentes traces fossiles. De délicats feuillages, un tronc d'arbre, des ondulations causées par l'eau sur le sable maintenant immortalisé dans la pierre. Les visiteurs se prennent au jeu et cherchent de petits trésors parmi les cailloux. Bientôt, ils montrent leur découverte à Dana Brown, qui se fait un plaisir d'expliquer ce qu'on y voit. Ici, une ancienne racine qui semble émerger d'un rocher. Là, de petites feuilles imprimées sur une pierre. Donna Floyd, d'Alexandria en Ontario, s'approche du guide en sachant qu'elle a mis la main sur une petite merveille. Elle avait pris le temps de bien regarder les fossiles exposés dans le centre d'exposition avant la visite guidée. Une fois sur la plage, elle a reconnu quelque chose. « Oh, c'est une tête de crevette !» confirme Dana Brown. Ce devait d'ailleurs être une grosse crevette. La tête fait 3 bons centimètres de diamètre, un picocéphalus pour être plus précis. Les visiteurs ne peuvent garder les fossiles et doivent se contenter de photos. Toutefois, l'Institut des fossiles de Juggins détient un permis qui permet la collecte des fossiles à des fins d'éducation et de recherche. C'est ainsi que Dana Brown met le petit trésor de Donna Floyd dans sa besace. De retour au centre après la visite, il remplit un rapport avec la description du fossile, les coordonnées de Donna, et prend une photo de l'Ontarienne et de sa découverte en vue d'une publication sur les réseaux sociaux. C'est la gloire. Retrouver le 18e siècle à Lunenburg. Dans le vieux Lunenburg, le 18e siècle n'est jamais bien loin. On le retrouve dans le port, toujours aussi animé. Dans les rues étroites qui ont été tracées dès la fondation de la ville en 1753, et dans quelques maisons de bois rénovées avec beaucoup de soin et d'amour. C'est justement pour cela que l'UNESCO a inscrit le vieux Lunenburg sur sa liste mondiale du patrimoine en 1995. Parce qu'il offre le meilleur exemple encore existant d'un établissement colonial britannique planifié en Amérique du Nord. La petite ville a su conserver sa structure d'origine, un plan en damier qu'on a appliqué avec rigueur en dépit de la topographie accidentée du lieu. Elle a également sauvegardé l'architecture traditionnelle de ses maisons, de belles demeures de bois, parfois modestes, souvent délicatement ornementées. Et c'est une bien bonne chose, fait valoir la guide Tiffany Pope, lors d'une visite guidée du vieux Lunenburg. Le moratoire sur la pêche à la morue en 1992 a été dévastateur pour le Canada atlantique, dit-elle. Des communautés ont pratiquement disparu, contrairement à Lunenburg, qui a pu se tourner du côté du tourisme grâce à ses bâtiments historiques. Tiffany Pope commence la visite guidée avec une petite histoire de Lunenburg. Et évidemment, les Micmacs fréquentaient l'endroit bien avant l'arrivée des Européens. Quelques familles acadiennes se sont installées et ont généralement conservé de bonnes relations avec les premiers habitants. « Ça s'est un peu gâché avec l'arrivée des Britanniques », affirme Mme Pope. L'influence de la mer. Les autorités britanniques, insatisfaites du premier contingent de colons anglais, sont allées recruter des colons qui leur semblaient plus travaillants, soit des protestants d'origine allemande, suisse et française. Ceux-ci se sont rapidement rendus compte que le lieu n'était pas propice à l'agriculture et se sont fait pêcheurs et bâtisseurs de navires. Et lorsqu'ils ont bâti des maisons et des écoles, ils ont intégré des éléments d'architecture navale, indique Tiffany Pope. Elle s'arrête devant plusieurs demeures pour souligner des détails intéressants. Celle-ci, toute simple, serait la plus ancienne maison de Lunenburg, bâtie entre 1753 et 1760. Celle-là, construite autour de 1825, abrite la 8e génération de la même famille, les Sulig. Un peu plus loin, un grand bâtiment brun, qui daterait de 1791, serait la plus vieille auberge encore en activité en Amérique. Mais elle est en vente. Je ne sais pas si je pourrai encore dire cela l'année prochaine, affirme Madame Pope. Elle nous fait pénétrer dans l'église luthérienne évangélique de Zion, où l'intérieur ressemble à la cale d'un navire. La congrégation est très fière d'une cloche provenant de la forteresse de Louisbourg. Après avoir détruit celle-ci en 1758, les Britanniques avaient rapporté quelques objets précieux pour les vendre aux enchères. Le gouvernement canadien a voulu ravoir la cloche pour la reconstruction du site de Louisbourg, mais la congrégation a refusé. Elle avait encore le reçu des enchères, indique Tiffany Pope. Une autre église est particulièrement émouvante. Pratiquement détruite par un incendie en 2001, l'église anglicane St. John's a été reconstruite à l'identique. Vous écoutez Le riche passé de la Nouvelle-Écosse, un texte de Marie Tison paru le 2 août 2025 dans la presse. Le port, la contrebande et les morts. La visite se termine dans le port, près d'un monument dédié aux marins morts en mer. Certaines années ont été particulièrement meurtrières, comme 1926 et 1927. Cela brise le cœur de constater que certains naufrages ont causé la perte de plusieurs membres de la même famille. Le musée des pêcheries de l'Atlantique, tout à côté, permet de se plonger davantage dans le monde marin. Il y a la pêche, bien sûr, mais aussi le rum running, la contrebande d'alcool pendant la Prohibition. Les contrebandiers avaient toutes sortes de trucs pour ne pas se faire repérer, à commencer par maquiller le nom du bateau et se déplacer dans l'obscurité. La contrebande était beaucoup plus payante que la pêche et quand même moins risquée. Il y a toutefois un grand absent dans le port. Le Blue Nose 2. La réplique du célèbre navire de course qui orne les pièces de Dissent est en mission à l'extérieur pour quelques jours. Il faut donc s'informer de ses allées et venues si on veut le voir en personne. Un ancien cimetière à côté du port est connu sous le nom de cimetière français. Mais on y retrouve essentiellement des pierres tombales du 19e siècle, bien après le départ des derniers Acadiens. Ah! Il y a bien une pierre ronde marquée d'une simple croix. En regardant bien, on peut deviner la lettre N, puis le nom Paul, et la date 1754. Selon les registres, il ne restait plus qu'une famille acadienne en 1753, celle d'un certain Paul Labrador Laverdure. Tout cela est bien mystérieux. Pour retrouver davantage de traces des Acadiens, il faudra aller à Grand-Pré. Grand-Pré, l'âme de l'Acadie. De grandes terres cultivées s'étirent au bas de la colline. Au loin, au-delà du bassin des mines, le cap Blomidon monte la garde. C'est un paysage harmonieux, si naturel, et pourtant, c'est un paysage créé de toutes pièces. Les Acadiens ont généré ces terres fertiles à partir de marais salins qu'ils ont asséchés à l'aide de digues. C'est cette transformation extraordinaire que l'UNESCO a reconnue en inscrivant le paysage de Grand-Pré à sa liste du patrimoine mondial en 2012. Mais ce faisant, l'agence a aussi reconnu ce site comme un lieu mémoriel et symbolique majeur pour les Acadiens dont la déportation, à partir de 1755, est connue comme le Grand Dérangement. Au bas de la colline pointe le clocher d'une jolie petite église. Elle est au cœur du lieu historique national de Grand-Pré, géré par Parc Canada. C'est le moment d'aller y faire un tour, d'essayer d'apprendre et de comprendre. Il est possible de visiter le site et la salle d'exposition de façon autonome, mais il est souvent judicieux de se joindre à une visite guidée, surtout lorsqu'elle est offerte en français. Marais asséché. C'est en 1632 que les Français se sont installés pour de bon dans le coin, nous apprend Catherine Surprenant. Ils ont commencé à construire des digues avec de la terre et de la tourbe et ont installé des aboiteaux à chaque ruisseau. C'est un système de canalisation qui permet de faire sortir l'eau salée du marais à marée basse et de prévenir l'entrée de l'eau de mer grâce à un clapet à marée haute. Marée après marée, le marais s'assèche. Ça prend de 2 à 3 ans pour dessaliner les terres, explique la guide. En 2006, lors de travaux de drainage, on a mis au jour un aboiteau fabriqué à partir d'un pin blanc abattu en 1686. Très bien conservé, il peut être observé dans la salle d'exposition. Les Acadiens auront asséché près de 13 km² des terres d'une très grande fertilité. Les Acadiens étaient prospères, mais rapidement, ils se sont trouvés coincés entre deux feux, entre les Français et les Britanniques. Les Acadiens ne souhaitaient pas prendre parti, mais les Britanniques ne leur faisaient pas confiance. Ils ont exigé un serment d'allégeance sans condition que les Acadiens ont refusé de prononcer. En 1755, les autorités britanniques ont alors entrepris de déporter les communautés acadiennes, dont celle de Grand-Pré. Par la suite, les Britanniques ont recruté des agriculteurs de Nouvelle-Angleterre, les planters, pour reprendre les terres et poursuivre le style d'agriculture mis en place par les Acadiens. Évangeline. Avec les années, toute cette histoire est tranquillement tombée dans l'oubli jusqu'à ce que le poète américain Henry Wadsworth Longfellow écrive Évangeline, un conte d'Acadie publié en 1847. Ce poème épique a déclenché un énorme engouement et Évangeline est devenue un symbole du grand dérangement. À la fin du 19e siècle, la Dominion Atlantic Railway a profité de cet engouement pour promouvoir des voyages touristiques en train jusqu'à Grand-Pré. En 1920, elle a installé une statue d'Évangeline pour accueillir les visiteurs. C'est une œuvre du sculpteur québécois Henri Hébert qui s'était inspiré d'une œuvre de son père, Louis-Philippe Hébert, intitulée « L'Acadie ». En tournant autour de la statue, Catherine Surprenant nous fait remarquer une bien étrange chose. Un côté du visage d'Évangeline semble jeune alors que l'autre semble projeter l'image d'une vieille femme. Est-ce que ce n'est qu'une impression? En 1922, les communautés acadiennes ont fait construire une petite église souvenir tout près du site où se trouvait l'église originale. Le bâtiment est touchant et présente notamment un très beau vitrail de l'artiste louisianais Terry Smith Lamotte, installé en 1985. La voie ferrée n'existe plus. Elle a été remplacée par une belle piste cyclable de 110 km qui traverse la vallée de l'Annapolis. Il n'y a plus de traces visibles du village de Grand-Pré, mais on a installé un petit village de tentes authentique pour passer la nuit avec les fantômes du passé. Mais il faut faire des efforts pour trouver l'un des éléments les plus émouvants du site, la croix de la déportation, installée en 1924 près de la voie ferrée de la Dominion Atlantic Railway, puis déplacée en 2005 près du site de l'embarquement de 1755. Curieusement, aucun panneau ne dirige les visiteurs. Il faut plutôt suivre des panneaux qui signalent Horton Landing, le lieu de débarquement des planters en 1760. il faut suivre une route de campagne, traverser le village de Hortonville, puis emprunter un chemin étroit derrière une ferme laitière aux vaches bien placides pour enfin parvenir au site. Ici, le silence règne. On peut se recueillir et penser aux gens qui ont dû embarquer ici pour une longue errance. C'était Le riche passé de la Nouvelle-Écosse, un texte de Marie Tison, paru le 2 août 2025 dans La Presse.
Une petite révolution dans nos champs. Un texte de Daphne Cameron, paru le 13 juillet 2025 dans La Presse. D'abord domestiqués sous les chaleurs du croissant fertile, il y a près de 10 000 ans, le blé cultivé au Québec passe de plus en plus l'hiver sous la neige. Le blé d'automne connaît un essor sans précédent dans nos champs. Un pari plus rentable et plus écologique. Une culture exceptionnelle qui s'impose au Québec. À Saint-Édouard-de-Napierville, une mer verte ondule sous le souffle du vent. Des tiges de blé tanguent à perte de vue, petits soldats d'une révolution qui prend racine dans les champs du Québec. Nous sommes au début du mois de juin. Après un printemps pluvieux, les agriculteurs québécois viennent à peine de terminer l'ensemencer leurs champs. Le paysage rural se décline en 50 nuances de brun. Mais sur les terres de la ferme EDPA, les épis de blé de Simon Durivage atteignent déjà la hauteur de ses coudes. Après avoir dormi sous la neige tout l'hiver, ces 250 hectares de blé ont repris leur croissance en force au printemps. Le blé d'automne, baptisé ainsi parce qu'il est planté à l'automne, connaît un essor fulgurant au Québec. On en récolte 6 fois plus qu'en 2010 et près de 3 fois plus qu'en 2015. Et 2025 s'annonce comme une saison record. Simon Durivage est agriculteur de 6e génération. Sa famille cultive ici depuis 1870. La ferme a été une précurseur dans l'implantation du blé d'automne au Québec il y a une 15aine d'années. Aujourd'hui, le blé d'automne est si populaire que pour la première fois l'an dernier, les superficies récoltées en Montérégie ont surpassé celles du blé usuel, celui qu'on appelle le blé de printemps. Meilleur pour l'environnement. Les rendements du blé d'automne sont meilleurs, mais surtout, c'est un choix plus durable. Avoir des champs plus fertiles, améliorer le sort des prochains. C'est un enjeu qui me tient à cœur, explique le jeune agriculteur de 34 ans qui a repris la ferme de ses grands-parents avec son oncle. Cette culture est si bénéfique pour l'environnement que le gouvernement du Québec commencera dès l'automne 2025 à récompenser financièrement les agriculteurs qui ajouteront pour la première fois une céréale d'automne dans leur rotation à hauteur de 48 à 76 $ l'hectare. La montée en popularité du blé d'automne est aussi indissociable de celle d'un nouveau mouvement, l'agriculture raisonnée. La santé des sols est au cœur de cette approche, qui se veut en quelque sorte une voie du centre entre les agricultures biologiques et conventionnelles. On se remet toujours en question, souligne l'agronome de la ferme, Carl Bérubé. Ça revient au principe de réfléchir comme il le faut à nos interventions, ajoute Simon Durivage. Il faut que chaque décision ne soit pas un automatisme. Moins de pesticides. L'agriculture raisonnée n'exclut pas l'usage de pesticides lorsque les ravageurs sont nombreux, mais celui-ci ne fait pas office de police d'assurance qui sert à rassurer l'agriculteur. En raison de sa hâtiveté, le blé d'automne requiert très rarement l'usage d'herbicides, contrairement aux cultures génétiquement modifiées de maïs et de soya, les deux cultures annuelles les plus répandues au Québec. Au printemps, le blé a une longueur d'avance sur les mauvaises herbes qui ont du mal à pousser dans son ombre. Cette culture-là est exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, résume M. Bérubé. Puisqu'il est récolté fin juillet, cela laisse peu de temps à la plante de développer la fusariose, un champignon qui doit être éradiqué avec des fongicides. Élisabeth Vachon, agronome pour les Moulins de Soulanges, à qui les Durivage vendent leurs céréales, le confirme. Le blé d'automne répond à tout. Il répond au marché, à l'autonomie alimentaire, à la conservation des sols, au contrôle de l'érosion. Il donne une meilleure rentabilité pour les agriculteurs et il amène une diminution incroyable des pesticides. Il n'y a peut-être que 10 % des champs qui utilisent des herbicides et des fongicides dans le blé d'automne, ajoute Mme Vachon. C'est incroyable. Ça ratisse tellement large. Du champ à la baguette. Dans un laboratoire de Coteaux-du-Lac, Abdelhaï Hanich pétrit une pâte qu'il transforme habilement en pain baguette qu'il glisse dans un four. En tant que boulanger en résidence des Moulins de Soulanges, son travail consiste à tester tous les lots de farine. Autour de lui, une panoplie d'appareils qui servent à mesurer les caractéristiques du blé. Activité enzymatique, qualité du gluten, taux d'humidité ou de protéines. Entre 1 000 et 1200 fermes québécoises approvisionnent le moulin chaque année. Ici, la composition de chaque mélange de farine est une science. Le directeur général, Jules Beauchemin, nous entraîne au cœur de son usine. Les équipements grondent dans un vacarme incessant. La farine qui y est moulue se retrouve notamment dans les pains tranchés de la boulangerie Saint-Méthode ou les pains artisans des boulangeries Première Moisson, le pain dans les voiles ou l'amour du pain. Jules Beauchemin parle des cultivars de blé comme des cépages de raisin, des farines comme des assemblages de vin. Les blés d'automne viennent donner de la tolérance à la longue fermentation. Ça va donner aussi de l'extensibilité à la pâte. C'est pour ça que, pour la boulangerie artisanale, on intègre une proportion de blé d'automne dans nos recettes de farine. Donc, c'est un mélange de blé d'automne et de blé de printemps, explique-t-il. On lui doit en partie l'ascension du blé d'automne au Québec, car son moulin est un des grands acheteurs de céréales locales. Cette année, dit-il, c'est une année record. Je n'ai jamais eu autant de blé d'automne. J'en ai tout le temps manqué. Cette année, je suis comblé. Les Moulins de Soulanges ont aussi développé leur propre programme d'agriculture raisonnée. On va primer les producteurs qui n'utilisent pas les fongicides, qui n'utilisent pas les herbicides, et on va surprimer le producteur, qui est dans une transition biologique, explique-t-il. Pour obtenir une certification biologique, un producteur doit d'abord cesser l'usage de pesticides durant 2 ans. Durant cette année, il ne peut rien mettre. Par contre, il faut qu'il vende au prix du conventionnel, tandis que moi, je viens l'encourager. Le moulin exige par ailleurs que les semences ne soient pas enrobées avec des pesticides. Ça arrive parfois que le producteur traite parce que sinon il va perdre sa récolte. Mais nous, on l'encourage à raisonner. Tu n'en as peut-être pas besoin. Maïs, soya, camping. En septembre 2024, la ferme EDPA a semé à la volée son blé à travers des champs de soya. Le soya a été récolté peu de temps après et le blé a pris sa place. La récolte est prévue vers le 25 juillet. On plantera ensuite une culture de couverture à l'aide d'un drone, la VES, qui, grâce à son système racinaire, ajoutera de la matière organique dans le sol et aidera à réduire la compaction. Grâce à ces cultures à relais, le sol n'est jamais laissé à nu, ce qui permet de prévenir l'érosion et la perte de nutriments. Un sol mieux structuré a moins de risques d'émettre du protoxyde d'azote, N2O, un gaz à effet de serre qui a un potentiel de réchauffement planétaire près de 300 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone, CO2. Il sera aussi plus résilient pour affronter les extrêmes météo de plus en plus fréquents causés par les changements climatiques. Maïs grain, maïs sucré, soya, blé, caméline, pois vert, pommes de terre, betteraves, l'entreprise des Deux Rivages se démarque par le grand nombre de cultures qu'elle exploite sur ses 1200 hectares, 12 km carrés. On a une structure qui est très compliquée, explique Simon Deux Rivages, mais toujours dans l'optique de conserver l'environnement, parce que ça pourrait être beaucoup plus simple, mais avec des pratiques agriculturales moins réfléchies. À quoi ressemblerait un modèle plus simple? Maïs, soya, camping, répond-il en riant. Tu sèmes, tu t'en vas en camping, tu récoltes. Il reste que l'introduction du blé dans la simple rotation maïs-soya vient briser le cycle de ces monocultures qui sont génétiquement modifiées pour résister à l'application d'herbicides. Le pari du MAPAC. L'agronome Yvan Fauché est le grand spécialiste des céréales d'automne au MAPAC. Il se dit adepte de l'agriculture raisonnée. Il est chargé de suivre les progrès des cohortes de producteurs qui cultivent le blé d'automne. On martèle beaucoup le message selon lequel c'est très bénéfique sur la rotation des cultures, explique-t-il. Même si le blé se vend moins cher, il souligne que l'ajout d'une céréale d'automne peut venir bonifier les rendements du maïs et du soya entre 10 et 15 % les années suivantes. Il est aussi possible de vendre la paille pour aller chercher un revenu additionnel. J'ai pris le bâton de pèlerin pour démontrer que c'était payant. Je dis au producteur, « Votre rotation maïs-soya, si vous continuez de même, vous risquez de frapper un mur éventuellement. » Produire du soya trop souvent le rend à risque de contracter des maladies racinaires, cite-t-il. Si on était capable d'avoir le plus possible de producteurs Avec cette rotation, maïs, soya, blé, on ferait des gains environnementaux assez impressionnants. Il rêve qu'un jour, les superficies consacrées aux grandes cultures soient occupées au un tiers, un tiers, un tiers. C'est pourquoi il tape sur le clou du blé d'automne depuis des années. Tu as beau arriver et dire au producteur « Il faut sauver la planète. » Il faut que tu lui donnes des solutions concrètes qui font en sorte que son entreprise va continuer à rouler. Pour ce qui est de la durabilité du système cultural, la santé des sols, ça passe par la culture d'une céréale d'automne. Ça passe par le blé d'automne. C'était une petite révolution dans nos champs. Un texte de Daphne Cameron, paru le 13 juillet 2025 dans La Presse.
Ces fois où la Terre tourne un peu plus vite, un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 août 2025 dans La Presse. Depuis quelques années, les journées durent moins longtemps. Les astrophysiciens ne comprennent pas pourquoi, puisque depuis des milliards d'années, elles rallongeaient. Le 5 août sera l'une des journées les plus courtes de l'année 2025. La journée a eu 1,3 à 1,5 millisecondes de moins le 5 août par rapport au 4 août, dit Robert Lamontagne, astronome de l'Université de Montréal à la retraite. Dans le quotidien, vous et moi ne verrons pas la différence. Mais ça a un impact sur les GPS et les transactions boursières. Si on ne corrige pas les horloges, il peut y avoir une variation de plusieurs centaines de mètres avec le GPS. C'est pourquoi les satellites qui permettent au GPS de fonctionner sont en lien avec ces horloges ultra précises. Depuis 2020, les journées sont de plus en plus courtes parce que la Terre tourne plus vite sur elle-même. Ça va à l'encontre du ralentissement de la vitesse de rotation de la Terre qu'on a mesuré depuis des millions, voire des milliards d'années, souligne M. Lamontagne. On a des preuves géologiques qu'à l'époque des dinosaures, par exemple, il y a 100 millions d'années, les journées avaient 23 heures plutôt que 24. Et il y a 900 millions d'années, c'était 22 heures. Ajoutez des secondes. Cet allongement très graduel des journées avait poussé le Service des systèmes de référence de la rotation de la Terre, IERS, à introduire en 1972 une seconde supplémentaire appelée intercalaire à cette année, ce qui a été fait à 24 autres reprises depuis. Le dernier ajout d'une seconde à une année a eu lieu en 2016. Il y a 400 horloges atomiques un peu partout dans le monde et l'heure officielle est la moyenne de toutes ces horloges, explique M. Lamontagne. Quand il y a un écart un peu trop grand entre la rotation de la Terre et l'heure des horloges atomiques, on ajuste toutes les horloges. C'est une opération compliquée aujourd'hui, à cause de tous les systèmes informatiques qui dépendent d'une heure très précise. Alors, il y a des gens qui proposent d'abandonner le synchronisme entre la rotation de la Terre et les horloges atomiques. Séisme et climat. La raison de cette inversion de tendance, qui fait maintenant raccourcir les journées, n'est pas claire. En physique, il y a un principe bien connu qui est la conservation du moment angulaire, indique M. Lamontagne, qui a aussi été directeur du télescope de l'Observatoire du Mont Mégantique. Quand un patineur artistique termine sa pirouette sur lui-même, il replie les bras le long du corps et tourne plus vite. C'est une question de centre de masse. On a vu, par exemple, qu'après des tremblements de terre importants au Chili et en Haïti en 2010, dans les jours qui ont suivi, la Terre a tourné plus vite d'un millionième de seconde. Des gens ont suggéré que les changements climatiques sont responsables du raccourcissement des journées ces dernières années. Si des pans de la banquise tombent dans l'eau, ça change la répartition des fluides sur notre planète. Le raccourcissement des journées est minime. On parle d'une à deux millisecondes au total, moins qu'un battement de cils, dit Robert Lamontagne. Mais à cause de cette tendance, l'IERS envisage d'enlever une seconde à une journée en 2028 ou 2029. Le phénomène a été pour la première fois démontré par des astronomes de l'Université d'État de Moscou en 2022 dans le Journal of Geophysical Research. Cet allongement jusqu'à 2020, puis le raccourcissement, n'est pas un long fleuve tranquille. On s'entend que la période de rotation de notre planète, ça fluctue, observe M. Lamontagne. On compare souvent ça aux fluctuations des marchés boursiers. En moyenne, ils grimpent de 5 % par année, mais on sait qu'il y a des excursions vers le haut ou le bas. Ou même la température des saisons. On a un réchauffement climatique, mais certaines années vont quand même être plus froides que d'autres. Déformation. Cette variabilité est due à la forme et à la composition de la Terre. Si notre planète était une boule de quilles solide en surface, parfaitement sphérique et toute seule dans le cosmos, sa période de rotation serait extrêmement stable, note l'astronome. Mais ce n'est pas le cas. Le diamètre mesuré à l'équateur est 43 km plus grand qu'au pôle. Il y a du magma qui se déplace à l'intérieur de la Terre. Et il y a aussi beaucoup d'eau en surface. C'est la même chose que pour les trains routiers. Si le matériel n'est pas arrimé à l'intérieur, le véhicule va tanguer d'un côté à l'autre en fonction des aléas de la route. Comment parvient-on à prédire la durée de la journée du 5 août? La Lune s'est déjà retrouvée dans une position semblable récemment, explique M. Lamontagne. La durée des journées observées lors de ces épisodes récents peut donc servir d'indicateur. La Lune influence les marées et exerce aussi une attraction sur la Terre qui modifie sa rotation. La Lune était dans une position similaire les 9 et 22 juillet, mais finalement, le jour le plus court au début du mois a plutôt été le 10 juillet, avec 1,38 millisecondes de moins que la normale, selon un chroniqueur de Weather Channel. En savoir plus, source Popular Mechanics. 47 millisecondes, allongement des journées depuis 3000 ans. 0,05 millisecondes, raccourcissement moyen des journées depuis 2020. 1,66 millisecondes, différence entre la journée du 5 juillet 2024 la plus courte jamais enregistrée depuis l'apparition des horloges atomiques, et la normale. C'était « Ces fois où la Terre tourne un peu plus vite », un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 août 2025 dans la presse.
«
les communautés francophones accueillantes, des mains tendues pour les immigrants francophones au pays. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 7 juillet 2025 dans Le Devoir. À Cornwall, dans une ville de l'Est ontarien où le « hi » résonne plus souvent que le « bonjour », une petite équipe s'affaire à rendre la vie plus facile et plus francophone pour les nouveaux arrivants qui choisissent d'y poser leurs valises. Il s'agit des employés de la communauté francophone accueillante. Dans les commerces de Cornwall, même les francophones se font souvent accueillir en anglais. Un simple « hi » lancé par réflexe. Mais quand on pousse la porte du centre Charles-Émile Claude, où les murs sont tapissés d'affiches en français, le contraste frappe. C'est là que travaille Benjamin Mouladji Moukadi, coordonnateur de la communauté francophone accueillante CFA de Cornwall. Nous sommes là pour accompagner les nouveaux arrivants francophones pour qu'ils trouvent une raison de rester, de s'enraciner et de vivre heureux ici, résume-t-il. Depuis le 23 juin, Cornwall fait officiellement partie des 24 CFA du pays. L'objectif est le même ici que dans les 23 autres villes désignées au pays. Faciliter l'intégration des immigrants d'expression française dans les régions à majorité anglophone. Le projet ne s'est pas bâti en un jour. Même après avoir reçu la désignation en 2024, Cornwall n'est pas automatiquement devenu un centre d'accueil pour les immigrants francophones. Il fallait embaucher une équipe, lancer des appels d'offres pour l'identité visuelle, trouver un bureau, négocier le budget, explique M. Mouladji Moukadi. Tout ce travail en amont a permis officiellement d'ouvrir un point d'accueil, un vrai lieu physique où les nouveaux arrivants peuvent être guidés dès leur arrivée en ville. Il fallait trouver un bureau bien localisé pour que les gens n'aient pas à souffrir. Les nouveaux arrivants ne maîtrisent pas encore la ville. Il faut leur offrir un accès facile. Mais le travail commence même avant l'arrivée des immigrants à Cornwall. Des gens nous contactent déjà de l'étranger pour dire « J'ai vu votre site. Je crois que Cornwall est la ville qui me convient », raconte avec fierté M. Mouladji Moukadi. Des réponses concrètes. Qu'il s'agisse de trouver un logement, d'ouvrir un compte en banque ou d'inscrire les enfants à l'école francophone, la CFA accompagne les gens pas à pas. On leur explique comment fonctionnent les démarches ici. On leur donne des liens, on les met en contact avec les bonnes personnes. Ça fait du bien à quelqu'un qui débarque. Il y a des gens qui sont là depuis 2-3 mois, mais qui ne sont pas encore très installés. On chemine avec eux. On les aide à trouver un emploi, un logement. On répond à leurs inquiétudes. En partenariat avec l'école secondaire francophone La Citadelle, une friperie de la CFA a aussi vu le jour. Quand quelqu'un vient avec un budget limité, il doit s'acheter tout ce dont il a besoin pour équiper sa maison. Grâce à la générosité de la communauté, on leur offre des meubles, de la vaisselle, un matelas. Ce partenariat avec la seule école secondaire francophone de la ville permet aussi, selon le coordinateur de la CFA, de lancer un message. Ce soutien collectif est essentiel pour lui. Quand quelqu'un arrive stressé puis repart avec un matelas, un sourire, 100 $ économisés et un sentiment d'avoir été accueilli, ça change tout. Surtout, cette initiative permet de démontrer que ce n'est pas une affaire d'un organisme tout simplement, ce n'est pas une affaire de 3 ou 4 personnes, c'est un projet porté par tout le monde, croit-il. Une ville stratégiquement située. Reste qu'en choisissant de s'installer à Cornwall, les nouveaux arrivants francophones prennent la décision de se mettre dans une position linguistique minoritaire. La question se pose, pourquoi s'installer à Cornwall plutôt qu'à Montréal ou à Québec où le français est majoritaire? La réponse est simple, selon M. Mouladji Moukadi. Même si c'est une francophonie minoritaire, il y a des ressources et les gens veulent aussi apprendre l'anglais. Ici, ils peuvent vivre en français tout en restant ouverts à l'autre culture. À cela s'ajoute la géographie. Nous sommes à 1h15 de Montréal, à 1h15 d'Ottawa, à 4-5 heures de Toronto, à 2 minutes de l'État de New York. C'est la ville la plus stratégique de l'Ontario, lance-t-il tout sourire. C'est la meilleure ville de l'Ontario. La CFA vise l'accueil de 250 personnes par an, mais les chiffres pourraient augmenter. Il y a une nouvelle communauté qui est en train de naître. Ce n'est plus seulement la communauté d'il y a 10 ans. Benjamin Mouladji Moukadi ne promet pas que la CFA permettra de tout régler, mais elle veut être ce premier contact, cette première main tendue. L'objectif final, c'est que les nouveaux arrivants soient heureux ici, qu'ils y fassent leur vie. Il est conscient que certains défis comme l'accès au logement demeurent préoccupants. Malgré tout, il reste confiant. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Les 24 communautés accueillantes désignées, région Évangeline, Île-du-Prince-Édouard, Clare, Nouvelle-Écosse, Chéticamp, y compris Saint-Joseph-du-Moine, Nouvelle-Écosse, région du Haut-Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, Belle Baie, y compris Bathurst, et la Première Nation de Papineau, Nouveau-Brunswick, Caraquet, y compris Rivière-du-Nord et Haute-Terre, Nouveau-Brunswick, région Restigouche-Ouest, Saint-Quentin et Kedgwick, Nouveau-Brunswick, Labrador City, Wabush, Terre-Neuve et Labrador, Hawkesbury, Ontario, Sudbury, Ontario, Hamilton, Centre-Sud-Ouest, Ontario, Cornwall, Ontario, District de Cochrane, Corridor de la Route 11, Ontario, London, Ontario, Région de la Rivière Seine, Manitoba, Rivière Rouge, Richo, Salaberry, Montcalm et Saint-Pierre-Joly, Manitoba, Moose Jaw, Gravelbourg, Saskatchewan, Prince Albert, Saskatchewan, Calgary, Alberta, Prince George, Colombie-Britannique, Nanaimo, Colombie-Britannique, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest, Whitehorse, Yukon, Iqaluit, Nunavut. C'était les communautés francophones accueillantes, des mains tendues pour les immigrants francophones au pays, un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 7 juillet 2025 dans Le Devoir.
Roman fort sur l'amitié ambivalente. Un texte de Paul-François Sylvestre, paru le 5 juillet 2025 dans l'Express.ca. Après 3 recueils de poésie, Sébastien Dulude signe un premier roman où il aborde l'enfance avec brio. Intitulé « Amiante », cette prose finement ciselée porte sur une amitié particulière, avec juste ce qu'il faut de non-dit et d'ellipse. Les protagonistes du roman sont Steve Dubois, 9 ans, et Charles-Élie Poulain, 10 ans. Ces deux garçons vivent à Thetford Mines, ville phare de l'industrie de l'amiante québécoise. L'action se déroule d'abord durant l'été 1986, période où les deux garçons s'abandonnent au plaisir de l'amitié. Enfants inséparables. La première fois que Steve rencontre le petit Poulain, il remarque d'abord un garçon à la dégaine polissonne, puis l'ami que je cherchais désespérément. Devenus inséparables, les deux enfants passent l'été en enfourchant leur vélo ou allongés dans leur cabane dressée dans un pin. Leurs sentiments se forgent parmi le frisson aigu des grillons, les trilles des passereaux et le sifflement des couleuvres. Très tôt dans le roman, Steve sent la peau de la cuisse de Charles-Élie contre la sienne. Une électricité chaude reliait nos chairs. L'air de leur bouche s'échange. Le fait du slip de Charles-Élie semble tendu, voire palpitant. Steve empoigne doucement le sexe de son ami et apprécie l'étrange humidité qui se forme à la pointe. Bruissement d'ailes d'un oiseau en envol. Nous nous sommes éveillés. Ça n'avait rien d'éternel. Poésie et rudesse. Le narrateur Steve est manifestement amoureux de Charlie Lee. Le romancier mêle poésie et rudesse du paysage minier pour dépeindre une amitié aussi profonde qu'ambivalente. Le texte de Sébastien Dulude m'a séduit par son écriture sensorielle, par sa façon d'illustrer comment l'enfance s'effrite sur l'adolescence. Le roman comprend deux parties d'environ 100 pages chacune. Il y a d'abord la rencontre amicale amoureuse en 1986, puis nous assistons 5 ans plus tard à la reconstitution d'un paradis évanoui. Entre ces deux périodes, il y a une tragédie qui affecte le cours de la vie de Steve. Réflexion faite, l'adolescent ne sait plus si à 9 ans il ressentait consciemment que le beau visage renarré de Charlie Lee Poulain, le calme anémone de ses longs cils et le sillon de ses lèvres étroites lui inspiraient un ordre de sentiments fiévreux. Mère et père. La mère de Steve est plus à l'aise en anglais. Mom ne dépose pas un bisou, mais plutôt un kissie sur les joues de son fils. Elle prépare pea soup and soda crackers. Elle dit à son mari, « Change de canal, Pierre. This isn't for his age. » Pierre Dubois travaille à la mine. Il n'apprécie pas les posters d'hommes au torse nu, tatoués et vêtus de cuir moulant sur les murs de la chambre de son fils. « Tu vas m'enlever tes photos de tapette. » Qu'aurait-il dit s'il avait su que Steve gardait la photo de Charlie Lee dans son portefeuille? De 1986 à 1991, les confidences de Steve se meuvent de creek en ruisseau, en rivière. Il voit cela comme un seul territoire dans lequel ses émotions et ses sensations circulent librement, indistinctement, à feu doux. Roman primé. Le romancier écrit que les mains de Charlie Lee soulageaient l'humeur en vrille de Steve, le rattrapaient. Même maladroite, approximative, ses caresses s'infusaient sous ma peau et me consolaient, comme tous les gestes de mon ami, ses paroles, ses regards. Il savait m'attiédir. Amiante a été 3 fois lauréat, notamment pour le prix des libraires du Québec, et 12 fois finaliste, y inclus pour le prix littéraire Le Monde. Je reprends les mots du critique Dominique Tardif, La Presse, qui estime que ce roman a été écrit dans une langue qui traduit certes le quotidien alangui de son personnage, mais peut-être davantage ce qui bourgeonne dans son esprit et son cœur. C'était « Roman fort sur l'amitié ambivalente », un texte de Paul-François Sylvestre paru le 5 juillet 2025 dans l'Express.ca.